sortir là. Allez là.
Ça fait trop du bien.
Allez-y,
j'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ah, ça sortait,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts d'herbe sortaient.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
La culture.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez les gens.
Vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez le béto,
sous la salle. Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagné de Marie. Salut Marie.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathanaël Robin et Steve Pénicaud, deux réalisateurs présents à l'occasion de la projection de deux de leurs films au cinéma Pathé de Tournord, le jeudi 6 mars à 20h. Il s'agit d'un long métrage intitulé « Mon pouvoir intérieur », ainsi que le court-métrage « L'esclave de l'autre ». Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc Nathanaël et Steve, on vous a introduit en quelques mots. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel a été votre parcours et quels sont vos domaines d'activité?
Je vais commencer. Moi, c'est Steve et j'ai majoritairement grandi en campagne, donc un petit peu loin justement du cinéma, etc. Et un jour, j'ai découvert Internet et l'électricité. Et du coup, je m'y suis intéressé à une période de ma vie. Ça m'a grandement inspiré et aidé. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de raconter des histoires et surtout comment ça se développe, etc.
Et la lumière fut.
Du coup, je m'y suis vraiment plongé dans beaucoup de genres et styles de films, aussi séries et animés, parce qu'il y a différentes narrations selon les formats. Et après le bac, du coup, j'ai rejoint une école de cinéma pour essayer de voir ce qui me plaisait le plus. Et maintenant, on est dans le bain.
Et pour ma part, ça s'explique pas. Ouais. Pour moi, ça a été inné. Je me rappelle, dès le plus jeune âge, à l'été 5 ans, où mon père me faisait regarder plein de films et... c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est toujours que ça a été en moi. Alors, au départ, je voulais être acteur. Et puis après, j'avais tellement d'histoires à raconter que je me suis dit, j'ai découvert la réalisation. Et puis, j'ai commencé à l'âge de peut-être 10 ans, avec ma première caméra, à tourner des petits courts-métrages avec ma famille, mes amis. Puis, ça s'est fait naturellement. J'ai intégré la même école que Steve. Et puis, on continue les projets depuis l'âge de 12 ans.
Donc, concernant ce film, Mon pouvoir intérieur, quel est donc son synopsis?
Alors, donc, c'est l'histoire de quatre collègues sages-femmes qui sont dévouées dans leur métier, qui, malgré elles, vont devoir se réapproprier leur féminité. Elles ont des parcours de vie totalement différents. Et elles ont un rapport à leur féminité qui est assez particulier. Donc, pour donner un peu le contexte, il y en a une qui a subi un cancer du sein. Il y a une autre qui a dû, là aussi, également subir un avortement. Un autre personnage qui est en pleine période de transition. Donc là, elle est dans sa phase de ménopause. Et un dernier personnage qui est toujours attaché à son rôle de mère. Et donc, elle essaie d'apprendre à comment s'en détacher de ce rôle de mère, de ce rôle de femme aussi. Avec son mari, donc apprendre un petit peu à s'enlever de ces schémas traditionnels de féminité et se découvrir sa propre féminité.
Et quels sont les thèmes qui y sont abordés?
Alors, le thème principal, c'est l'écoféminisme. Donc, c'est vraiment le féminisme et l'écologie. Et c'est donc, pour un peu vulgariser, entre guillemets, c'est la pression, la violence faite envers les femmes, les minorités de genre, sexuelles, raciales, et également la violence faite envers la nature. C'est vraiment ça le thème abordé.
Quel a été le contexte du tournage? Où est-ce que vous avez tourné et combien de temps est-ce que cela a pris?
Alors, donc, on a tourné ça au mois de juillet, sur 3 semaines. On a tourné un peu partout dans Tours. Donc, on a tourné sur l'île de la Métairie, parce qu'il y a des scènes un petit peu de déforestation. Il y a une forêt qui va être rasée pour être transformée en mine de lithium. Donc, voilà. Pour tourner dans l'hôpital, parce que ce sont des sages-femmes, on a tourné ça à l'IFRSS, donc à la Croix-Rouge, à Chambry-les-Tours. On a tourné aussi dans des rues de Tours, derrière la cathédrale, donc un petit peu partout, et au lycée Grandmont aussi, voilà.
Et alors, combien de personnes ont été réunies sur le projet ?
Alors, ça a été vraiment une toute petite équipe. Ouais, on a vraiment... On était trois, vraiment, en équipe technique. Et puis après, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous relayer, venues nous aider. Donc au total, la plupart du temps, on était six, quoi.
Donc là, c'est impératif de savoir tout faire.
Voilà, ouais, exactement. Ouais.
De
la prépa à la post-prod, on est vraiment... Enfin, moi, j'ai tout supervisé et quasiment tout fait, quoi.
Dans quelles œuvres ou quels éléments est-ce que vous puisez votre inspiration ?
Alors, déjà, dans tout ce qui m'entoure, dans la vie, hein, y a plein de sources d'inspiration au quotidien. Bon, les interactions sociales, tout ça un petit peu. Et puis, culturellement parlant, du cinéma un petit peu plus dans l'aspect mise en scène, David Lynch, Spielberg, un petit peu cet univers assez sombre, assez... les personnages, on a du mal à les discerner dans le paysage. Travailler un petit peu un travail sur l'ombre, donc vraiment un travail assez, un petit peu du clair-obscur, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit dans la forêt aussi. Donc, il y a pas mal d'inspiration comme ça.
Et dans ton cas, Steve ?
Je suis un grand fan de Christopher Nolan. J'aime beaucoup la narration qu'il peut mettre dans ses histoires, parce qu'il... Il fait une réalisation qui est très proche des blockbusters, donc on ne s'ennuie pas, mais avec un scénario qui prend son temps. Donc moi, je suis beaucoup inspiré du coup du prendre son temps. C'est vraiment des longs plans pour essayer de faire vivre les acteurs. Et je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de référence. J'avais un tuteur qui est également réalisateur, qui s'appelle Mallory Grollo, qui fait aussi énormément de films avec ses longs plans pour... que ce soit oppressant dans certains cas de figure.
Ouais, tu as peut-être un petit peu aussi Tim Burton, non, qui t'inspire un petit peu sur le.
Ouais, Tim Burton pour un côté décadent, faut un côté spectacle aussi qui met ça en avant, que ce soit au niveau de l'interprétation de certains comédiens, du jeu. Et après, effectivement, moi je suis aussi très à cheval sur les dialogues, pour l'instant en tout cas. Je laisse peu de place à l'improvisation. Si ça apporte quelque chose, je suis totalement pour. Mais effectivement, je mets beaucoup de temps à faire mes dialogues pour qu'ils aient une cohérence, que ce soit plus tôt ou plus tard dans un scénario. Du coup, j'aime bien que ce soit à la virgule près et je suis assez carré aussi là-dessus. Ouais, voilà. Donc,
Vous l'avez tous les deux écrit ou c'est majoritairement en toi le scénario ?
Alors, Nathanaël a écrit Mon pouvoir intérieur. Moi, j'ai corrigé quelques dialogues sur certains personnages.
Et parce que des fois, on a besoin de recul.
Ouais.
Puis moi, je sais que je suis moins fort au dialogue, entre guillemets. Ouais. Enfin, j'ai moins pris le temps sur les dialogues. Je suis vraiment plus dans la description, dans l'état émotionnel, psychologique des personnages. Mais c'est vrai que Steve est plus fouillé dans le dialogue.
Et si jamais, moi, c'est l'inverse. Voilà. En description, je suis moins fort. Et les dialogues, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que c'est, entre guillemets, aussi un parachute pour l'acteur. Parce qu'il doit se reposer... sur ce qu'il doit dire, de la façon dont il le dit. Donc, si les dialogues ne correspondent pas au caractère de certains personnages ou interviennent au mauvais moment, ça fait que sur le plateau, c'est déjà plus compliqué de diriger ces acteurs. Donc, on va dire qu'on se complète pas mal. Et que
après, c'est qu'aussi, nous, on est dans un niveau où, comme on a des acteurs qui sont la plupart du temps amateurs, on a pas le choix de s'adapter sur le terrain un petit peu parce que forcément des fois il y a des dialogues que nous on a écrits qui nous plaisent mais sur le plateau c'est moins naturel donc forcément ils ont besoin eux de s'imprégner leur personnage et de dire je le vois plus comme ça ou comme ça donc moi je suis plus dans le retravail avec les acteurs en fait pour que ça soit plus naturel et plus fluide après pour les acteurs.
C'est vrai que ça peut être une perte de temps aussi sur si jamais il y a une phrase qui n'arrive pas à sortir ou pas bien que ce soit du côté de la mise en scène ou des acteurs, ça peut bloquer. Par exemple, sur mon tournage, on a perdu une heure facile sur le tournage parce que Henri, qui est l'acteur principal de mon film, avait du texte et il fallait trouver le tempo de savoir comment il le rythmait. Donc, on a réussi avec de l'effort, on a pris du temps et ça a marché parfaitement. Mais effectivement, quand ça arrive sur le plateau d'un coup et qu'on n'était pas prêt, c'est là qu'on commence à prendre du retard.
Et venons-en aux acteurs. Quelles actrices alors sont à l'écran et comment ont-elles été sélectionnées ?
Alors, bah, pour ma part, c'est vraiment, j'ai joué sur mon entourage. Donc, un des personnages principaux s'appelle donc, c'est Catherine Millot, qui donc, c'est une ancienne prof de théâtre que j'ai fait du théâtre pendant 8 ans, du théâtre d'impro, donc je l'ai intégrée dans l'aventure. Et puis après, c'est au fur et à mesure de nos rencontres, de nos projets qu'on fait, on rencontre d'autres gens, donc Juliette Perfetto, Anicia Poisson, qui sont des actrices qu'on a rencontrées aussi sur d'autres projets avant, et Kathleen Petri, qu'on a également rencontrée voilà, dans un cadre théâtral. Et donc, voilà, bah, c'est vrai que nous, quand on n'est pas trop connus, c'est pas évident de justement
démarcher les gens,
les gens, voilà, parler du projet. Donc, voilà, et puis il y a l'argent aussi qui rentre en jeu parce que nous, on a des petits moyens. Donc, forcément, les gens, c'est du bénévolat. Donc, ça dépend de l'appréciation de chacun, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, il y a pas mal de contraintes qui font qu'on choisit nos acteurs.
Vous arrivez à garder la main sur votre projet entre donc, votre idée de départ et les adaptations qu'il y a à faire avec les acteurs, actrices?
Absolument pas. Non, vraiment pas. Et au contraire, moi je sais que c'est ma méthode de travail. J'ai déjà fait de l'impro depuis 8 ans, donc j'ai besoin de travailler comme ça dans le mouvement. Ou quand on est sur le plateau, il y a quelque chose de palpable qui se crée avec nos acteurs. Il y a des fois des scènes d'impro en fonction de comment ils ont envie de se mouvoir dans l'espace, comment ils ont envie de parler. Donc je trouve ça passionnant. Et puis on peut pas tout contrôler, nous, quand on écrit le scénario. On a une idée, mais c'est vrai que on sait pas comment l'acteur va l'interpréter. Donc c'est bien aussi de se laisser aller, parce qu'on peut pas tout contrôler, et heureusement. Et voilà, on a de belles surprises.
Et si on écoutait le trailer de Mon pouvoir intérieur?
Honorons la forêt et redonnons-lui son énergie. Des saisons difficiles l'attendent.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous lie. Je suis plus comme avant. Je sais même pas comment tu fais pour encore me désirer.
La vie me rappelle que je n'ai pas été à la hauteur de mon rôle de mère.
T'as tout détruit. Les femmes, la nature.
Vous tuez tout ce que vous touchez.
Je me libère complètement maintenant.
Il va falloir qu'on en fasse ou des choix.
Lâchez cette arme !
Qu'est-ce que tu attends de moi ?
Ce ne sont pas des pouvoirs de sorcière. Ce sont des pouvoirs de femme.
Beaucoup de suspense dans ce trailer.
Oui. Et je veux préciser, la musique a été composée par Maxence David, donc qui a composé toute la musique du film, et voilà, qui a fait ça avec les moyens du bord et qui a été incroyable. Donc voilà.
Et alors, on entend dans la bouche d'un personnage, t'as tout détruit, les femmes, la nature.
Oui.
Mais alors, qui a tout détruit?
Surprise.
Potentiellement l'antagoniste.
Ouais, c'est ça. C'est une relation assez complexe entre donc Eve, un de mes personnages principaux, et donc Maëlle, son mari. Et donc lui, il a repris l'entreprise de son père, qui donc exploite voilà les forêts, qui exploite voilà tout ça pour en faire du lithium. Et donc voilà, c'est ce ce rapport-là un petit peu complexe aussi au sein du couple qu'on traite aussi dans cette histoire. Voilà, le devoir conjugal, tout ça, le rapport des tâches quotidiennes, etc., la surcharge mentale des femmes. Donc voilà, on en parle à travers ce couple.
On ressent quelque chose d'un peu surnaturel dans le trailer.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans le film?
Ouais. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que quand j'entends parler les gens aujourd'hui, oui, on a besoin de se changer les idées, on a besoin de choses qui nous changent du quotidien. Et en fait, moi, je sais que c'est du cinéma social que j'ai envie de faire. C'est du cinéma qui parle de sujets vraiment concrets, de sujets un peu, des fois, touchy, mais voilà. Et donc, c'est comment aborder ces sujets-là de manière différente, de manière un peu aussi attractionnelle, comme on peut dire, enfin, un petit peu avec voilà, du fantastique, du surnaturel, pour aussi mieux faire passer les messages. Et des fois, je trouve que on peut faire passer plus de messages en abordant des thèmes voilà, de manière plus surnaturelle ou fantastique.
Et alors, dans quel genre est-ce qu'il s'inscrit, ce long-métrage?
Alors, c'est un drame fantastique. On mélange les deux, vraiment. C'est un petit peu du cinéma d'auteur, en même temps du cinéma plus populaire, si je peux dire.
Qu'est-ce que vous aimeriez alors transmettre avec ce film?
En fait, moi, c'est parce que ce sujet-là m'est venu comme ça. Enfin, en plus, j'étais dans une salle de cinéma et je me suis dit, mais oui, j'ai envie de faire un film sur, qui parle de, des violences faites aux femmes et faites à la nature. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et puis, quand je suis tombée sur ce terme-là, écoféministe, je me suis dit, bah oui, en fait, le terme est tout trouvé. Et donc, c'est vraiment une, un peu une... Parce que je veux dire, moi, je n'ai pas la science infuse et il y a plein de choses que j'ai encore à connaître sur ce sujet. Donc, c'est vraiment juste ouvrir l'esprit sur des choses qui sont plus au global. Parce qu'on parle de féminisme, d'écologie, etc., de discrimination raciale, sexuelle. Mais des fois, il faut dire que si on prend plus de recul, c'est quelque chose qui est plus global. Ce n'est pas qu'une lutte. C'est, et l'écoféminisme, c'est une convergence des luttes. Et j'ai trouvé ça intéressant d'exploiter.
Merci à vous pour cette présentation, on va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une pause musicale sur Radio Campus Tour. Que va-t-on écouter, Marie ?
On écoute Justice de Jordan Astra et Phoebe Day.
Just to know this girl way back. I was plotting on this mission and I couldn't stay back. Give her everything, but don't take that. Something kind of special, and I really say that. She was caught up in a world of her own. Scared of being alone, cause she loved being home. I was looking out for the unknown. Something more to this, I could feel it in my bones. And I could feel it in my soul. If I wanna love her, then I let her go. We down for the road. I see you when I see you, cause you never know. Good morning and goodbye. Dry your eyes, look up, cause time flies, cause time flies. I'm on my way, right by your side, you know it's true, it's better when it's just us, so look to me, when you wanna cry, you know it's true, it's better when it's just us.
I used to know this boy. Was something in his eye that got me every time, even now when I'm at home on my own. He crawls under my skin, I gladly let him in. Now I'm just no good when I'm not in control. But how can I know what my future holds? And I guess if it's meant to be, he'll find his way back.
Just us. So look to me when you wanna cry. You know it's true. It's better when it's just us. But she's so independent and she loving the freedom. Got her options around, but really she never need them. When I pull up in town, tell her drop them and leave them. Cause it ain't nothing but distraction. Come and going like seasons. I tell her, baby, it's yours. Yours for the taking. But we just want more. Ain't no mistaking. If I gave you my heart, could you keep my soul awakened? Cause if we're being honest, baby, we the history to make.
I'm on my way, right by your side. You know it's true. It's better when it's just us. So look to me when you wanna cry. You know it's true. It's better when it's just us.
Vous venez d'écouter Justice de Jordan Astra en feat avec Phoebe Day sur Radio Campus Tour. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Alors je rappelle que Nathaniel Robin et Steve Pénicaud sont présents avec nous. Comment avez-vous été sensibilisés à la réalité des sages-femmes et au-delà du métier, à la solidarité féminine et à la pression autour du rôle de mère?
Vaste sujet. Comment j'ai été sensibilisée? Bah, c'est vrai que déjà, bah, par rapport au rôle de mère, bah, ma mère, hein, qu'on peut voir autour de nous, les mères qui nous entourent, que ce soit nos tantes, nos...
Qui voilà. a participé au film.
Oui, aussi, effectivement. Mais toutes les femmes qui nous entourent, voilà, on... quand on a des échanges comme ça, on peut voir un petit peu prendre la température sur comment elles ressentent les choses par rapport à leur féminité, etc. Et on sent que... Enfin, moi, j'ai subi un petit peu la crise de la cinquantaine de mes tantes quand moi, je faisais ma crise d'adolescence. Donc, finalement, j'ai fait une crise de la cinquantaine à l'adolescence. Et c'est là où j'ai découvert pas mal de choses, effectivement, sur ce besoin de liberté, d'émancipation des femmes, etc. Qui, voilà, et de plus en plus, c'est pas qu'à 50 ans, mais c'est vrai que, bah, c'est vrai qu'il y a des générations où ça se fait tardivement. Et nous, notre génération, ça se fait voilà, à l'âge adolescence, et c'est ça qui est cool. Donc, et puis après, le sage-femme, bah, c'est plus... voilà, donc, petite dédicace à Béatrice Clémenceau, qui donc, est la mère d'une amie, qui, donc, elle, travaille dans le milieu hospitalier, qui nous a voilà, un petit peu emmenés dans cet univers-là aussi. Donc, voilà.
Donc, tu as grandi dans un environnement très féminin ou pas?
Ah oui, ah, si, vraiment très féminin. Et une féminité forte, quoi. On s'impose et c'est ça qui est chouette, quoi.
Et donc, alors, comment elle a été choisie, cette thématique qui est donc féministe? Comment est-ce que tu t'es réapproprié le sujet?
Ah oui, parce que c'est sûr que c'est pas évident en tant qu'homme. On se dit, ah, j'ai pas ma place sur ce sujet-là. C'est pas évident aussi, parce qu'on n'a pas...
Non, justement, c'est pas une question de pas avoir sa place, bien au contraire. Mais par contre, oui, c'est pas évident. Oui.
Voilà, parce qu'aborder des thématiques qui, nous au premier abord, ne nous concernent pas forcément, je veux dire, et pas avoir aussi ce regard masculin et pas non plus s'approprier des sujets voilà, en donneur de leçons. Donc, c'était vraiment... juste moi, par rapport à ce que j'ai, tous les bouquins que j'ai pu lire, Françoise Aubonne, etc., machin, sur ce thème, en faire une transcription fidèle de ce que moi j'avais ressenti, et aussi laisser l'interprétation à chacun et chacune sur ce sujet-là, en fait.
Mais enfin, on le sent tellement, cette envie de transmettre sur le féminisme, qu'en fait, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Oui. C'était important de choisir autant de thématiques.
Bah, l'écoféminisme aborde toutes ces thématiques-là, donc je ne me voyais pas passer sous silence certaines.
Mais par exemple, tu disais, y a plein de volets du féminisme, il ouais. y a plein de façons de se réapproprier justement la féminité. Tu disais donc, 4 féminités à se réapproprier.
Ouais.
Pourquoi en avoir choisi 4? Parce que c'est beaucoup finalement.
C'est beaucoup, effectivement. Je voulais avoir un panel assez large aussi du chemin qu'elles vont devoir parcourir. Et donc, voilà aussi cette réappropriation à travers le corps, à travers la psychologie, à travers aussi, socialement parlant aussi, comment la femme s'est construite et comment elle a envie de sortir de ce cadre social. Donc, c'était vraiment aussi comment elles allaient traverser ces épreuves et comment elles allaient donc, se réapproprier leur féminité qui m'a justement conduit à aborder toutes ces féminités-là.
Parmi ces 4 femmes, Ève, Myriam, Léa et Églantine, laquelle vous identifiez-vous le plus?
Eh bien, je dirais peut-être Myriam. Myriam qui est assez indépendante, assez libre et qui voilà, est un petit peu en dehors des cadres sociaux et qui aussi voilà, un rapport aussi avec ses émotions. Parce que voilà, alors c'est pas explicitement dit, mais comme la forêt est sur le point d'être rasée pour transformer en mine de lithium, j'ai fait le parallèle avec donc, la forêt qui était en train de se détruire et la féminité aussi qui se détruit et qui se renaît entre guillemets de ses cendres, donc la ménopause entre guillemets.
Le
donc,
champ de mine.
Voilà, c'est ça un petit peu. Et donc c'est ouais, le rapport aussi aux émotions, au corps qui change, que, oui, qui peut me ressembler le plus.
C'est très bien, ça nous permet de lier tout ça. Donc il y a la thématique de l'environnement qui est abordée avec cette forêt qui va être rasée. Comment elle s'équilibre ces deux thématiques entre écologie et féminisme?
La forêt, c'est vraiment le point central de l'histoire où donc, ces femmes vont se retrouver et vont justement, au fur et à mesure que la forêt elle est rasée, il y a une prise de conscience justement de ce que l'homme fait à la forêt, donc ce que l'homme a fait à la femme aussi. Il y a une introspection aussi individuelle voilà, de quelle est leur féminité actuelle et vers quelle féminité elles ont envie d'aller.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant le tournage ou la production?
Évidemment, évidemment, et heureusement d'ailleurs, mais oui, forcément, des acteurs, des plannings qui changent, ou alors on est surpris par la nuit, par des événements climatiques, enfin voilà, qui font que le vent, tout le ça, vent. Avec le son, En plus, on était en été, donc il a fait très chaud, donc les moustiques et que ça. On a fait aussi avoir un accident avec un sanglier dans une forêt. Mais voilà, c'est les joies du tournage. Et après, post-production, effectivement, il y a beaucoup de... On a eu pas mal de soucis techniques aussi, parce que forcément, plus on fait de choses tout seul, plus on a de casquettes. Donc, on essaie de faire le maximum de choses bien. On n'a pas forcément toutes les compétences, parce que dans notre école, on était vraiment plus axé mise en scène. Donc, la technique, on était moins performant à ce sujet. Donc, forcément, il y a des choses qu'on a dû retravailler en post-production, notamment par rapport au son, à l'image, à l'étalonnage, qui fait que, c'est du travail.
J'ai le droit de demander l'anecdote du sanglier.
Ouais, grave.
Ah oui. C'était un jour où on était l'une des plus grosses équipes sur ce moment-là. On était à l'île de la Métairie. Et pour gagner un petit peu de temps, parce que le tournage avoisinait les 2-3 heures du matin, on commence à se diviser en deux équipes. Donc Nathanaël part avec les acteurs qu'il avait besoin pour une séquence plus loin dans la forêt. Ils partent. Et Hugo et Johan, qui sont intervenus sur le film en tant que techniciens, ils avaient plusieurs casquettes aussi, on commence à prendre du matériel pour commencer à préparer le setup dans un autre endroit de la forêt. Et on installe les lights, on installe tout, on est prêt. Et là, on entend des bruits qui s'apparentaient pour le coup à plus des bruits de pas d'hommes. Donc... On était en train de se dire, 3 heures du matin, forêt, nuit, on était vraiment dans un endroit de la forêt où c'est une sorte de marécage, pas très accessible. Nous, on mettait vraiment facile 20 minutes à chaque fois à accéder à cet endroit-là. Donc, c'est pas vraiment commun de croiser à 3 heures du matin quelqu'un qui se balade dans la forêt. Et les pas se rapprochent. Alors nous, avec les lights, on fait du bruit, on essaye de prévenir qu'on est là. Et à un moment... quelque chose débarque dans notre champ de vision et il s'avère que c'était un sanglier qui se tenait à quelques mètres de nous. Donc là, on a été assez figé de se dire « Ah, c'est ce soir la fin, c'est dommage ». Et le sanglier a pris peur avec les lumières qui étaient déjà installées et nous qui avons fait un peu de bruit, etc. Donc il a réussi à partir, enfin en tout cas c'est ce qu'on pensait. Et on ne le voyait plus, donc nous on appelle l'équipe de Nat qui devait nous rejoindre après pour leur dire on fait quoi, on rentre, on annule, vous venez quand même, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous on n'avait pas vraiment la visibilité de savoir s'il était réellement parti, on commence à bouger un petit peu et on se rend compte que dans les hautes herbes un petit peu plus loin, il était toujours là. Et là d'un coup il a pris réellement peur et il a couru à une vitesse folle. En direction de l'équipe de Nat.
Donc, parce que moi, j'arrivais là, je ne savais pas ce qui se passait. Voilà. Je me disais, est-ce que c'est prêt? Donc, j'entends personne qui répond. Et là, je vois une bête qui s'avance vers moi. Donc, il ne fallait pas courir, mais moi, je suis assez peureux, donc j'ai couru. Donc, voilà, donc, c'est comme ça.
Par chance, le sanglier allait autre part.
C'est ça. Non, mais on est de la chance, parce que dès le premier jour de tournage, on a commencé début juillet, ça c'était fin juillet que le sanglier est venu à nous. C'est vrai qu'on avait déjà repéré des traces de sanglier, mais et on tournait souvent de nuit justement jusqu'à 5h du matin. Donc c'est vrai qu'on a eu de la chance que ça n'a pas interrompu tout le tournage. Quoi.
Mais pour le coup, on n'a pas pu tourner cette séquence.
Cet accident avec le sanglier, parce qu'il s'est posé devant nous, il s'est arrêté, on s'est regardé pendant facile 5 minutes. Et quand on pensait qu'il était parti, malheureusement, il est parti dans la direction où on voulait partir.
Donc on était bloqué.
On était bien bloqué et on s'est approché donc, des hautes herbes, parce qu'entre nous, il y avait... Ce fameux marécage des ronces,
oui, c'est vrai, c'est vrai.
On pouvait difficilement traverser, et des hautes herbes. Et on s'est rapproché, on devait être à peut-être moins d'un mètre de lui. Et en fait, là, on l'a entendu grogner et gratter le sol, prêt à charger. Là, on a fait demi-tour, on s'est un petit peu déchiré les jambes sur les ronces, et on est passé à côté justement du lieu où il dormait.
Donc c'est à ce moment-là qu'on a dit, la séquence, on ne la fait pas ce soir.
Oui. On ne l'a jamais fait.
Et on est rentré.
Alors, je vous propose donc de s'intéresser aussi un peu plus à ce court-métrage, donc L'Esclave de l'Autre, réalisé par toi, Steve Pénicaud et Henri Dorina. Quel récit suit-on dans ce court-métrage?
Alors, c'est un récit qui, on va rester flou au niveau de l'année, mais qui se passe dans une époque où le racisme était quelque chose de mis en avant et qui servait potentiellement à faire rire des personnes qui n'étaient pas impactées par ce racisme. Donc là, on a du coup Henri qui interprète un homme noir qui va se faire vivement critiquer et subir des choses obscènes dans un cirque rempli d'une foule d'hommes et de femmes blancs qui justement vont rire de ça. Et moi, j'interprète le rôle de Monsieur Loyal qui va justement mettre en scène toutes ces obscénités que Henri va subir. Et pour voir aussi le choc un petit peu des époques qu'il y avait entre avant, c'était quelque chose qui était normalisé pour en faire carrément un spectacle qui faisait rire les gens. Et aujourd'hui, c'est effectivement, on s'est rendu compte que c'est quelque chose d'affreux, d'horrible. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que effectivement, Henri, parce que de base, j'avais envisagé un acteur plus jeune pour le rôle d'Henri, mais malheureusement, j'avais pas trouvé quelqu'un d'aussi jeune. Du coup, Henri, qui est plus vieux, qui a dépassé la soixantaine, on a discuté longuement du film, il avait bien aimé le scénario, etc. Et il m'a fait part du fait que lui aussi avait subi, alors peut-être pas à ce niveau-là, parce que dans le film, c'est vraiment accentué, mis en avant pour qu'on ne prenne pas ça pour du premier degré, justement, et que il y ait quand même le cadre de la fiction qui entoure tout ça. Mais on avait échangé aussi là-dessus, sur le fait que bah, ça lui rappelait certaines choses qu'il avait vécues, et que pendant le tournage, des fois, il devait effectivement se mettre dans sa bulle pour se dire... Allez, c'est pas la vraie vie, c'est...
On est dans la fiction.
Voilà, ouais. C'est ça, il faut se mettre dans le plateau. Quoi.
Ça se passe en France ?
Oui, justement, ça se passe en France, et on a tourné à Toulouse, qui est la ville où j'ai grandi, et on a reconstruit tout un chapiteau avec ma famille et mes grands-parents. Parce que pour louer un chapiteau, avec le peu de budget qu'on a, c'est immensément cher, et du coup, on a fait de la bricole, on est allé acheter... des tissus rouges, on a reconstruit toute une cage qui sert d'armature, on a accroché les draps, on a mis du sable, etc. Et donc ça a pris 2-3 mois de construction, mais ça nous a fait économiser 15 000 euros à peu près.
Et ça t'a pris donc combien de temps pour mettre ce projet sur pied ?
Alors j'avais eu l'idée de faire ce projet, en tout cas de la base du scénario, quand j'étais encore en études. Et ce projet n'avait pas été retenu parce qu'on avait plusieurs contraintes selon ce qu'on devait écrire. Sauf que moi, ce projet me tenait quand même à cœur. Et de base, c'était pour un projet de 3 minutes filmé. Et je me suis dit, il manque quelque chose. 3 minutes, c'est quand même assez court pour réellement reconnaître l'ambiance, les émotions, s'attacher au personnage. Du coup, j'ai retravaillé le scénario de mon côté. J'ai perdu du temps parce que je suis très tatillon sur les détails, les dialogues, etc. Et une fois que la version du scénario a été, on va dire, validée par moi, j'en ai parlé du coup à Nathanaël et à d'autres de mes amis pour avoir quand même leur point de vue. Et en tout, la préparation a pris à peu près un an, sans compter réellement la post-prod et la communication qu'on peut faire aujourd'hui. Mais un an pour, justement, comme on le disait tout à l'heure, multicasquette, essayer de tout faire. Donc, ça a été assez compliqué.
Et donc, l'idée t'est venue comme ça, d'aborder ce thème ?
Bah, en fait, du coup, dans notre école de cinéma, on nous demandait à tout le monde d'écrire des scénarios par rapport à certains thèmes. Donc, ça peut être des ratios de cadre, de comment on va filmer, est-ce qu'on le filme en noir et blanc, il faut tel... Par exemple, aussi Désir, qui fait qu'on fait des scénarios, on n'écrit que dans ce thème-là. Donc là, on avait eu un autre thème. Et moi, j'avais bien aimé l'idée, parce que du coup, pendant plusieurs heures dans une salle, tu réfléchis à un scénario qui peut tenir en 3-5 minutes, avec justement ces contraintes-là qu'on nous imposait. Et au final, moi, j'ai bien aimé l'idée. Et plusieurs personnes m'ont fait la réflexion de me dire que ça ressemblait à tel autre film, à tel autre film. Sauf que bah, du coup, c'était pas mon point de vue, c'est pas mon interprétation, c'est pas mon écriture. Donc oui, effectivement, ce thème-là a été fait, mais comme beaucoup d'autres thèmes, c'est surtout le point de vue, j'imagine, du réalisateur, de celui qui l'écrit, de comment les acteurs vont interpréter les rôles, qui va changer un petit peu tout ça et de se dire on ne regarde pas à chaque fois la même chose. Sinon, on ne regarderait qu'un seul film en boucle et on s'en lasserait sûrement.
Et alors, quelles ont été tes inspirations pour ce court-métrage ?
Alors, à force qu'on m'ait cité du coup le film Chocolat en me disant que ça y ressemble énormément, je ne l'avais pas encore vu quand j'avais écrit ce scénario, je me suis dit, bon, bah, quitte à ce qu'on m'en parle tout le temps, je vais le regarder, donc je l'ai regardé. Ça ne m'a pas inspiré pour le coup, mais ça m'a plus réconforté dans l'idée que, bah, oui, j'avais l'impression de tenir quelque chose, et justement, je voulais me défaire de cette image que le film Chocolat a. Alors, il est excellent, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais justement, je voulais proposer autre chose pour montrer peut-être un autre point de vue, un autre aspect. C'est pour ça que, par exemple, l'époque n'est pas réellement citée, pour rester dans quelque chose d'assez flou. Et sinon, oui, c'est effectivement aussi beaucoup de films français qui mettent ça en avant et un petit peu doucement. C'est souvent du sous-texte pour essayer de ramener quand même beaucoup de monde en salle. Donc, plus les films sont gros, moins ils vont essayer d'aller directement dans le brut, et ce sera en sous-texte. Il faudra vraiment s'intéresser au film pour trouver ça. Et là, je me suis dit non. On va le mettre au premier plan. On va justement essayer. J'ai essayé d'inverser en fait tout ce qui se fait potentiellement. Le méchant, bon, bah, au final, c'est peut-être pas forcément celui qu'on croit. Est-ce que le chapiteau, est-ce que c'est réellement un chapiteau qui se passe à cette époque-là, ou est-ce qu'il prend une machine à remonter dans le temps pour y aller ? Donc j'ai vraiment voulu tout faire l'inverse de ce qu'on nous apprend au final quand on écrit un scénario. Et j'espère que j'ai réussi. Un minimum.
C'est un sujet sensible. Quelle approche a été choisie pour le film ?
Alors, effectivement, oui, ça a été un sujet sensible. Mais je me suis dit, je sais où je vais. Et si les autres ne le comprennent pas, bah, tant pis, j'essaierai de le défendre comme je peux. J'en avais, parce que du coup, comme on a tourné sur Tours, on a fait beaucoup de déplacements aussi au niveau des trains, etc. Et on a rencontré aussi plusieurs personnes dans les trains qui nous entendaient parler de nos films, qui s'intéressaient un petit peu, qui nous ont posé des questions. Et beaucoup de personnes nous ont réconfortés, que ce soit pour le film de Nathanaël ou le mien, à nous dire « bah non, allez-y, parce que c'est une bonne idée. Les gens vont comprendre que ce n'est pas pour le racisme, mais pour justement lutter contre ça. » Et j'ai aussi énormément essayé personnellement d'avoir plus de bagages, parce que effectivement c'est peut-être pas des histoires que moi j'ai pu connaître, par exemple, contrairement à Henri qui les a subies réellement dans sa jeunesse pendant longtemps. Donc j'ai essayé de m'informer auprès d'autres gens, d'amis, de connaissances, et pour avoir un petit peu de bagages aussi pour diriger potentiellement Henri, pour essayer de cibler certaines perles d'émotion à certains moments, et me dire aussi, ah là je vais trop loin dans mon scénario, je perds ce que j'avais envie de dire, et garder ce qui est utile et ce qui va dans ma vision, en tout cas.
Quels acteurs est-ce qu'on pourra retrouver ? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que le personnage d'Henri ?
Alors, pour le coup, très peu, parce que c'est quelque chose d'assez minimaliste. Comme le film se passe, pareil, en huis clos, très peu de décors, il y a beaucoup... quelques figurants quand même, que ce soit dans le cirque ou dans un autre décor. Mais sinon, il n'y a que deux personnages qui se renvoient à la balle et qui font une sorte de ping-pong, qui est du coup Henri qui joue Djibril et moi-même qui interprète Serge, le monsieur loyal. Et en fait, c'est justement la relation entre ces deux-là qui vont être mises en cause.
Et donc, quels sont les enjeux autour de ce court-métrage ?
Les enjeux, c'est de... je dirais, au-delà de parler effectivement... d'une autre époque, de montrer que les gens ont évolué, que effectivement, que ce soit le racisme avec aussi énormément d'harcèlement, etc., que ce soit physique ou même moral ou n'importe. Il y avait aussi cette chose de, j'espère avoir réussi à faire passer ce sous-texte-là, de parler de ne faites pas forcément confiance dans ce que vous voyez, faites-vous votre propre opinion, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, parce que dans le film, il y a quelque chose qui fait que ce qu'on peut voir au premier abord était potentiellement un mensonge ou pas. Et il y a un effet boule de neige, en fait, qui arrive plus tard. Donc, j'ai aussi dire que chaque personne est différente. Beaucoup vont dire des choses sans, et beaucoup vont l'enregistrer sans s'en informer, sans essayer de prendre le temps de faire son propre avis. Et je voulais justement en parler aussi un petit peu dans notre génération qui est quand même assez connectée, qui a beaucoup de moyens de s'informer, etc., mais que beaucoup ne prennent pas le temps et prennent les infos sans réellement regarder, se disent, bon, bah, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, ou si elle l'a dit, c'est que c'est vrai, donc ok.
Merci beaucoup, Steve, pour cette présentation donc, de l'esclave et l'autre. De l'autre. Donc on va faire une nouvelle pause musicale. On écoute Walter Astral, le duo psyché originaire de Bourges, à l'univers magique et druidesque. Ils ont sorti fin janvier leur nouvel album Eclipse. Et ici, on fait une pause avec le titre Crépuscule, en feat avec Lay. C'est un voyage sonore de près de 7 minutes, qu'on va probablement un peu raccourcir, et qui oscille entre électro et orientalisme. Donc Walter Astral, c'est maintenant sur Radio Campus.
Rêve du crépuscule.
écouter Crépuscule de Walter Astral et Lay sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous êtes toujours dans l'émission Sortez. Avec nous, donc Nathanaël Robin et Steve Pénicaud. Est-ce que ces thèmes de l'environnement, de la solidarité féminine et de l'esclavagisme, vous aimeriez les explorer de nouveau dans vos travaux?
Évidemment. Oui, moi je sais que bon, je suis un petit peu malade quand même, mais j'ai prévu ma carrière sur une petite trentaine d'années. Et je sais que c'est des sujets que j'ai envie d'aborder parce qu'il y a tellement de choses, tellement de manières d'aborder ces sujets-là et que c'est tellement inépuisable et tellement ça restera toujours d'actualité. C'est des sujets qui évoluent mais qui resteront toujours d'actualité. Donc évidemment.
Bah, moi je pense que je vais garder des traces à chaque fois de ce que j'ai pu faire pour les aborder différemment, mais contrairement à Nathanaël, j'ai pas prévu ma carrière sur 30 ans. Donc j'ai déjà des projets en tête que je sais que je veux faire plus tard pour essayer d'avoir plus de bouteilles, que ce soit dans la réalisation, l'acting, l'écriture, pour que ces projets soient vraiment bien. Mais je me suis pas dit, je sais que le court-métrage va découler d'une trilogie qui va réellement parler de ça. J'ai des projets, je sais que ces thèmes-là vont revenir, y compris du féminisme et de l'écologie dans d'autres projets, mais c'est pas un objectif de carrière. En tout cas pour moi, j'aimerais bien visiter plusieurs genres et justement d'amener aussi d'autres sujets de manière différente.
Et donc en parlant d'autres sujets, quelles autres thématiques et d'autres genres est-ce que vous auriez envie de développer?
Moi je sais que là je prépare déjà mon prochain long sur le syndrome de Diogène, donc j'ai vraiment envie d'aborder plein de sujets. Le harcèlement à l'école, l'impact des réseaux sociaux, l'influence, tout ce qui est le milieu de l'influenceur, etc. Les abattoirs, tout ça, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. La foule aussi, les comportements de foule, tout ça. Donc voilà, plein de sujets comme ça.
Et si jamais moi aussi je suis en train d'écrire et de préparer le prochain long métrage qui parlera du coup des déviances sexuelles. Et je pense que là, pour le coup, je vais reprendre ce sous-texte que j'avais déjà mis dans le court-métrage pour justement qu'on évite de croire aussi à ces informations qui peuvent être dites à la volée ou sur des réseaux qui peuvent aller très vite et justement en jouer là-dessus. Donc il y a aussi du harcèlement qui va être évoqué dedans et ça va parler aussi de la construction de jeunes adultes au final qui vont se rendre compte que en termes de travail, études, leur place dans leur société et leur place avec eux-mêmes, que ce soit dans ce qu'ils pensent être ou comment ils auraient pu réagir avant certains drames, que là c'est totalement différent et qu'ils sont plus chamboulés. Mais oui, des thèmes comme ça reviennent dans le prochain film aussi.
Nathanaël, tu l'évoquais en début d'émission quand tu parlais de tes premiers pas. D'où vous est venue votre passion pour le cinéma?
Comme je disais tout à l'heure, ça a été quelque chose d'inné. J'ai commencé à voir des films à l'âge de 5 ans. Et je me rappelle d'avoir vu King Kong, qui est sorti en 2005 et qui m'a bouleversé. E.T. aussi. Enfin, j'ai vraiment grandi avec beaucoup de films des années 80 et début 2000. Et je me suis construit comme ça, en fait. Et après, on a envie de... quand on est à la maison, on s'imagine les personnages, etc. On reprend un peu ce qu'on a vu à la télé ou au cinéma. Parce que c'est vrai que j'étais au cinéma très jeune, à l'âge de 6 ans à peu près. Je crois. Donc c'est vrai que grâce à mon père, j'ai pu aussi découvrir la salle de cinéma qui, pour moi, c'est ma deuxième maison, quoi. Et parce que c'est pas pareil de faire un film pour la salle, pour la télé, pour... les ordi. Et le cinéma est quelque chose de particulier. Pour moi, je le prends en compte aussi dans ce que je fais. Parce que forcément, c'est plus grand, c'est plus, quelque chose de plus majestueux, je trouve. Et donc, oui, c'est venu comme ça, naturellement. Et puis, on grandit avec, on se construit avec. Et puis, ça nous fait notre force, notre faiblesse, ça nous fait notre refuge. Et en même temps, notre manière de s'exprimer, de se développer. Et voilà, quoi.
Et moi, c'était du coup un petit peu plus particulier parce que. J'ai pas grandi, en tout cas dans mon enfance, avec justement des milieux artistiques comme ça, que ce soit le cinéma, la peinture ou autre. Et j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Et c'est quand c'était des moments où je me sentais assez seul ou que ça allait pas forcément bien. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à me reconnaître dans certains personnages après, quand j'ai découvert certains films, certaines séries. Et je me suis dit, d'accord, donc... Il y a des parties de moi qui correspondent un petit peu à ce que je peux voir à l'écran. Et du coup, ça m'a un petit peu rassuré, réconforté de me dire bah, ces personnages évoluent donc, tout au fil de l'histoire. Donc moi aussi, je vais évoluer, donc il ne faut pas s'arrêter là. Et après, comme j'ai dit en détail, je me suis dit bah, on va essayer aussi, nous, de raconter des choses avec justement un point de vue différent. Donc je l'ai dit plusieurs fois que le cinéma et les séries, etc., avaient sauvé ma vie dans un sens, parce que c'est ce qui, des fois, me raccroche sur des moments de solitude et autres. Et aussi, que c'est tellement un impact culturel que là, Nathanaël Robin ou même mon meilleur ami Hugo, c'est aussi avec cette culture cinématographique où ça nous a fait un point d'accroche et on a commencé à se connaître en parlant justement de films.
Bah, ce qui est fort dans le cinéma, en fait, c'est que c'est une vision singulière qui crée quelque chose d'universel où, en fait, malgré tout, on se reconnaît. Et en parlant de nous, en parlant de comment on voit le monde, en fait, on arrive à toucher plein de gens. Et en fait, on passe des messages
à connecter plein d'êtres humains.
Oui, exactement. Et c'est vraiment quelque chose de puissant, je trouve, le cinéma, qu'on met en images, en mots et aussi en musique, en son. Donc, c'est fort, je trouve.
Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas une histoire, au final, on peut avoir...
on peut s'y reconnaître,
ouais, on peut, bien sûr. Et débattre aussi. C'est ce clairement. Qui a fait que... y a beaucoup de films bien que sûr. Tu apprécies que je n'aime pas forcément. Évidemment. Et on arrive à en débattre et à trouver des points positifs et négatifs en inversant les rôles aussi. Donc, c'est ça qui est bien.
Une collaboration qui commence à être bien huilée entre vous deux. C'est votre deuxième film ensemble, Nathalie et Steve. Comment vous sentez-vous?
Oui, on en a fait plus.
Ouh, ça, c'est officiel. Mais...
Et comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de cette projection?
Stressé, mais aussi... plus on approche, plus des cases commencent à être cochées. Les films sont faits. La salle, on l'a vu. On avance sur la communication, mais pareil, on a déjà fait des plans de com' qui ont été faits. Donc, plus on s'en rapproche, plus on se dit, à un moment, on aura fini notre travail.
Il n'y a pas le choix, faut arrêter de réfléchir, parce que sinon, on retravaillerait toujours des trucs. C'est-à-dire, bon, après, toi, Steve, là, on a testé le film ce matin en salle, donc Steve, c'est bon, c'est opérationnel. Moi, j'ai encore des choses à faire, parce qu'on a des changements de ratio de cadre dans nos films. Donc, il y a encore des soucis techniques à régler, etc. Et merci infiniment au pâté tourneur, à Loïc, à Anthony, de nous permettre aussi de retravailler nos films, aussi, parce qu'en nous permettant de les projeter avant, on peut se rendre compte de ce qui va pas, et on les modifie. Mais c'est sûr que, on aurait toujours envie de les retravailler. Oui. Il y aurait toujours chercher la petite
perfection,
bête. Voilà. On est des éternels insatisfaits. C'est pour ça qu'après, on a besoin de faire d'autres films, de faire d'autres projets, parce que on a des frustrations et on se dit je voulais développer ce sujet-là, plus de ce côté-là, plus de cet aspect-là. Donc on va le faire dans le prochain, et donc ou de manière différente. Et en fait, voilà quoi.
Puis il y a aussi le fait de voir comment des spectateurs vont réagir à l'accueil de nos films. Parce que nous, entre gens de l'équipe qui avons participé au film, effectivement, soit on se pose plus de questions qu'il en faudrait et c'est pire, soit on s'auto-rassure sur d'autres choses sans savoir ce que les spectateurs vont en penser. Donc ce sera déjà une première de voir les réactions à chaud.
Puis à un moment donné, on n'a plus le recul sur ce qu'on fait, donc forcément on a besoin aussi de lâcher prise et dire « allez, regardez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on n'a plus de vision, on n'est plus objectif. »
Et d'avoir plein de nouveaux points de vue. Oui.
C'est ça.
Et alors, en quelques mots, comment vous résumeriez cette séance du 6 mars pour conclure cette émission?
Alors, donc, nos deux films vont être projetés. Donc, d'abord le court-métrage de Steve, ensuite le mien. La séance commence à 20h. Et donc pendant 1h45, les personnes peuvent voir le film. Et ensuite, on a un échange avec les deux équipes du film pour pouvoir justement débattre sur... sur les films et surtout sur les thèmes, parce que ça qui est important, c'est aussi débattre, parce qu'on connaît nos faiblesses, nos défauts, nos qualités de nos films, mais aussi c'est comment avoir ces points de vue différents.
Mais effectivement, on voulait avoir une interaction avec le public et pas juste dire voici les films, regardez-les, puis nous on n'intervient pas pour en discuter avec les gens, parce que en plus on débute aussi dans nos carrières, donc tous les avis, que ce soit comme on l'a dit, positifs ou négatifs, peuvent apporter aussi quelque chose. Donc c'est vrai que cet échange, on l'a mis dès le début, quand on a essayé de promouvoir nos films, etc., pour dire on aimerait bien communiquer directement avec les personnes qui verront notre travail, et pas juste lancer la viande dans la cage au lion et se dire tant pis.
Merci beaucoup, Nathanaël Robin et Steve Pénicaud, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur les internets?
Bien sûr, oui. Les Petits Créateurs, pour notre association dans laquelle on a fait nos films. Et puis après, oui, sur Facebook, Instagram, avec nos prénoms, à toi, Steve.
Oui, bah, effectivement, Les Petits Créateurs, qui du coup est l'association qui nous sert de boîte de production pour justement mettre en avant nos films. Et sinon, sur YouTube ou Instagram, qui est Cinéco, pour justement parler un peu de cinéma, etc. Donc voilà.
On rappelle que la production de Mon pouvoir intérieur et L'esclave d'un autre, c'est le jeudi 6 mars au Pâté de Tournord à 20h. Après la production des deux films, une rencontre avec l'équipe de tournage ainsi que de nos invités du jour.
Que de nos deux invités du jour.
Steve Nico et Nathanaël Robin est organisée. Place à l'agenda culturel. Et oui, on est mardi. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Marie ?
Eh bien, le service culturel universitaire propose 3 dates pour le spectacle Le Ring de Catharsis, qui clôture le festival de marionnettes avec ou sans fil. Ça se passe demain, donc le mercredi 26 à 20h, le jeudi 27 à 19h et le vendredi 28 février à 20h au Théâtre Olympia de Tours. Le spectacle affiche complet, mais les places restantes sont réservées à la communauté universitaire. Ces représentations s'adressent donc aux étudiants et au personnel de l'université qui nous écoutent, et c'est bien au service culturel qu'il faut s'adresser. Ce spectacle, c'était une des grandes recommandations de Cécile Thomas, qui est responsable de la programmation du service culturel, et qui nous a fait part de ses impressions dans l'émission qui a été dédiée à la programmation de ce second semestre à l'université. Donc je parle, mais de quoi il s'agit, le Ring de Catharsis ? C'est un spectacle qui reprend les codes du jeu vidéo, avec 4 matchs qui se succèdent sur un ring dans lequel les joueurs sont des avatars contrôlés à distance. L'équipe invente une singulière machine à jouer et vient questionner la notion de domination, retrouvant la cruauté aussi naïve que directe de l'enfance. C'est au tarif de 6€ ou 4€ avec le PCE.
Le mercredi 26 février, concert au bateau ivre de Madame et Madaïval pour l'ouverture du festival Brice Mandel, une programmation rock pour son lancement de festival qui met à l'honneur les artistes féminines. Madaïval, c'est un quatuor psychédélique suédois basé à Stockholm et qui présente son 3e album nommé Sundog. Quant à Madame, on dit Madame.
Madame.
Groupe de Toulousaines composé d'une guitariste, d'une bassiste et d'une batteuse pour des titres ultra courts et percutants avec des super riffs. C'est à partir de 19h30 au tarif de 8€ en pré-vente. On aura tout le loisir d'aborder en profondeur les engagements du festival et sa programmation dans l'émission qui lui sera dédiée ce jeudi 27 février en présence de Claire Barbieux, responsable à la culture de la commune de Luynes.
Vendredi 28 février, 2 événements. À 15h, retrouvez les rencontres spectaculaires du 37e parallèle à Tournord, le lieu de création et d'accueil de compagnies de spectacles vivants. En quelques mots, ces rencontres spectaculaires permettent donc au grand public d'accéder au travail des artistes et d'aller à la découverte de leur création de résidence de façon gratuite et sans réservation. Ici, c'est la première création d'Elodie Sacotio, Chant du sol, qui se présente comme une pièce pluridisciplinaire. C'est un projet qui s'intéresse aux lieux qu'on a traversés, ces lieux qui nous sont chers, auxquels on se sent davantage appartenir qu'ils ne nous appartiennent. Le spectacle propose d'entrer dans un autre rapport aux espaces. Et on reste à Tournord, puisqu'en soirée, la petite Maze propose le concert de Sagoon, quartet jazz funk instrumental qui vous embarque dans un voyage sonore où rythmique intense, harmonie vivante et nuances surprenantes s'entrelacent. Leur composition originale, inspirée de Herbie Hancock and the Headhunters, Ghost Note ou Butcher Brown, allie chaleur et énergie, liberté et précision. L'entrée est gratuite et c'est à partir de 20h.
Ainsi que le samedi 1er mars, 3 événements, à commencer par le rappeur et producteur Troubadour, waouh, c'est si simple à dire, hein, qui anime à la Bibliothèque Centrale de Tours un atelier rap Emao pour les 15-25 ans, un atelier qui aborde les différents aspects de la musique hip-hop, de l'écriture à la performance sur scène, en passant par le beatmaking et le Emao, la musique assistée par ordinateur, que le public soit initié ou novice. L'artiste propose un accompagnement dans cet espace de création. C'est à 15h et c'est gratuit sur inscription. L'humoriste Rosa Burstein est à la Comédie de Tours. Elle poursuit son spectacle, son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste et de mauvaise gauchiste. Elle retrace l'histoire de sa famille et se questionne sur notre époque. Où se situent réellement nos convictions? Que fait-on pour se donner une bonne conscience? Sommes-nous restés des enfants qui jouent au bras de fer dans la cour de récré? C'est à 21h au tarif de 25€.
Et dernier événement qu'on a sélectionné ce samedi 1er mars, la version hivernale de Au quart de tour, qui arrive donc pour sa première édition en hiver, organisée par Béton Prod au Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps de 20h à 4h. Côté programmation, Daniel Avery, Floyo, Enola Gay, Oshun, Walter Astral et Logix, Logix, Logix pour ne citer que. C'est au tarif de 25€, 20€ avec le PCE. L'événement est également à retrouver de 19h à 23h au soleil avec le cabaret du Grand Colossal. Et pour finir, ce dimanche 2 mars, comme tous les premiers dimanches du mois, on vous rappelle que les entrées des musées et du château de Tours sont gratuites afin de découvrir ou redécouvrir les expositions en cours comme les collections permanentes. Et dans le cadre du Printemps des Poètes, des visites flash de 15 minutes seront proposées, ainsi que des lectures des passeurs de poèmes. L'agenda de la semaine, check. Le podcast de l'émission est à retrouver donc sur radiocampustour.com. On se lasse avec une touche de musique. Quelle est-elle, Samuel ?
On va écouter l'artiste française Michelle, qui vient de sortir son nouvel album Le Temps qui passe, ce 24 février. Le titre, c'est Play Me. Nous vous souhaitons une agréable soirée.
You run it for bedtime tonight, or are you just running for me? I know that something ain't right, cause you don't even. Tonight, and you on your phone when you're with me. I know that something ain't right. There's something strange that I can't see. I ain't playing with you, better cut the lights. Said she just a friend, that's some bullshit. Cause you got a girl for hiding on the side. She can keep you while you fuck with that shit. I give my all to you and you lie to me. I just be mixing it up all the fucking names. Yeah, you lie to me, I know you lie to me. We gotta cut it off, you better back your shit.
You and I, we know the things we could have been. By now, you blew it for sure. And you and I know very well that you ain't just your friends. You lie, that we over now.
Better watch it now. Cause I know your mama loves having me around. You better admit now. You and me could have been perfect, but you got a new chick now. I know that girl that deserves me. That's actually your ex bitch. Wow.
Was it a lie all this time? Did you cheat on her with me? Or did you run back to her after you said you loved me? Though I love you, it hurts to know that you're lying to me. I'm giving you everything to her, and I am there on my knees.
You and I, we know the things we could have been, but now you blew it for sure. And you and I know very well that you are just a friend. You're right, it'll be over now.
Cause you got a girl for hiding on the side. She can keep you while you fuck with that shit. I give my all to you and you lie to me. I just be mixing it up all the fucking names. Yeah, you lie to me, I know you lie to me. We gotta cut it off, you better back the shit.
I wanna get rid of you, even though you are all I need. But I'm gonna stay with you. Back up on your shit and leave.
You and I, we know the things we could have been, but now you blew it for sure. And you and I know very well that you ain't just a friend. You might be over now.
J'ai des radios campus, 99.5, Radio Campus Tour.